Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Eh bien voilà, bienvenue une nouvelle fois dans votre émission Mon Chaussure. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, ou une invitée spéciale. Nous avons un livre qui s'appelle Tartinez-moi et autres textes de Jill Johnston, avec une préface de Pauline Elboulba. C'est une militante féministe assez intéressante à découvrir. Et en quatrième de couverture, on peut... entendre ça. Je sors de l'eau, bord qui glisse. Gilles tombe pour la seconde fois. Escule attend impatient avec sa grande serviette jaune et ravie. Et je me dis que c'est mon entraîneur et que j'ai gagné la course. Je contourne la haie vers les arbres. Une lady en robe longue se cache dans les buissons. Pourquoi t'as fait ça? Jongle vraiment furieuse. Tu manifestais? Oui. Es-tu une femme? Oui. Est-ce que tu faisais partie du complot des Red Stockings pour saboter cette fête? Oui. Tu frimais? Oui. Es-tu une lesbienne radicale? Oui. Est-ce que tu apprécies les School? Bien sûr. Est-ce que c'était l'idée de Monsieur School? Non. Il n'a soutenu ni découragé la démonstration, mais j'ai bien eu l'aval de mon éditrice. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien, je crois qu'on doit être sérieux ou sérieuse quand on a but. Mais pas forcément solennel. Et c'est une drôle de titre, Tartinez-moi et autres textes. C'est une parole lesbienne très libérée et très remplie de références. Et c'est un arbre qui cache la forêt de Gwyn, de la danse, les lacs de Gwyn. Elle a commencé la danse à l'adolescence, puis elle a intégré la compagnie des danses modernes de José Limón, dirigée par Doris Humphrey, dont elle est fan. Gilles est grande, plus grande que les autres danseuses. Sur les photos, difficile de ne pas la remarquer. Son visage est expressif. Elle rit. Plus tard, elle se blesse les pieds. Son horizon professionnel s'est réduit, mais elle rebondit. Elle a appris à sauter. Elle travaille dans une bibliothèque des danses, lit beaucoup et comprend vite que la critique des danses, c'est plutôt une affaire d'homme. Ou dans le mot de Gilles, un mec arrivé au sommet sur un poteau de barbier. Ça lui donne envie de s'effrayer une place, les pieds dans la porte, ce sont les années 1960 à New York. C'est un peu facile de retrouver des boulots. Enfin, quand t'es blanche et que tu t'entraînes avec les bonnes personnes, ce qui est ton cas. On propose à Gilles de tenir une rubrique des critiques des danses dans un journal new-yorkais gratuit, les Village Voice. C'est un moment charnière dans les studios de Manhattan où ces jeunes artistes émergentes font de la danse un espace expérimental transdisciplinaire dans la lignée du travail d'Anna Alprin ou de Merce Cunningham et John Cage. On fait la performance, des happenings, des soirées poésie. Ici, tout le monde danse, on fait la fête. Gilles est aux premières loges et devient amie des artistes d'Yvonne Reiner, Deborah Hay, Robert Morris. Elle témoigne sur les travaux, article après article. C'est une artiste qui travaille, elle performe la critique, lesbophobe, et elle partage sa vie sentimentale avec Lucinda Childs. C'est un livre extrêmement rempli des images et des luttes qu'elle nous fait part dans cet ouvrage. Et peut-être que nous voulions commencer par une fin ou par un milieu. Sur la couverture, une photo de Gilles, comme sur quasi chacun de ses livres, assise sur une chaise en bois, vraisemblablement adossée, une jambe croisée sur l'autre, des boots aux pieds, un jean, une veste à galons et un chapeau melon. La main gauche sous son menton, une machine à écrire posée au sol, à côté d'elle, comme sa chienne. Entourée des arbres et des arbustes, elle est à la campagne. Elle nous regarde. La quatrième des couvertures montre Gilles de dos, marchant sur un chemin. Sans doute, une invitation à la suivre, à marcher dans ses pas, à parler dans ce mot. Traduire par les milieux, c'est dessiner progressivement notre parcours. Quatre corps penchés sur les mêmes lignes, chacune proposant, acquiesçant, nuançant, complétant les autres. Ces débats joyeusement. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce que ça signifie cette époque? Quel est le passif interpersonnel auquel nous pouvons pas accès? Ou nous n'avons pas accès, pardon. Il fait déjà nuit et la planète Gigi scintille. Nous avons aussi des descriptions très intéressantes sur les animaux, sur tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle peut réfléchir autour de cette notion de la corporalité. Elle parle d'un terme assez intéressant sur les organisations somatiques. J'ai cherché un peu parce que je ne comprenais pas tout à fait ce que ça voulait dire. Et en gros, les organisations somatiques, parce qu'elle voit de la chorégraphie, par exemple, dans les lieux militants, dans les déambulations, dans les marches, dans les discours, dans les tractages. Elle voit de la danse dans ce type de situation que normalement, on dirait, bah, c'est tout simplement de la vie. Et bah, elle nous raconte comment elle décrit, comment elle intègre la danse dans ces moments-là. Et c'est là où elle parle d'organisation somatique. Et donc, en gros, la soma, c'est ce qui concerne l'ensemble des cellules non sexuelles d'un être vivant. Donc, c'est un concept que je n'avais jamais entendu parler. Et c'est une bonne découverte. Rappelez-vous qu'on peut... Et consulter ces ouvrages au centre, à l'Institut chorégraphique international. Dans l'après-midi, vous pouvez contacter Géraldine au 04 67 60 06 70 et c'est uniquement consultation sur place. Et là, des passages très, très... très drôle. Et écoutons une autre. La semaine dernière, j'ai eu l'idée d'écrire sur quelques événements de poésie auxquels j'ai assisté un après-midi, 17 novembre, au Country Club de Longview. À peu près 21 actions de 2 minutes par poète, poétesse, sous l'égide de Hannah Weiner. Mais la tour d'ivoire s'est transformée en tour de contrôle, tandis que les cygnes nus s'éraient vers la lune. Si les vols ou la lune dévient de sa trajectoire, alors les persécutrices rendront immédiatement l'antenne. Les familles des astronautes seront instantanément informées en personne. Le président sera prévenu et apparaîtra simultanément en direct pour avertir la population du désastre. L'opération prendra exactement 20 minutes. La tour de contrôle continuera sans doute de communiquer avec les astronautes dans leur course vers l'infini, sirotant leur dernier repas dans la dernière pochette classique. Cela serait peut-être ultime poésie. Si toute la philosophie depuis 400 ans avant Jésus-Christ, ça n'a été qu'une note de bas de page à Platon. Peut-être que toute la poésie depuis Sappho n'a été qu'une préparation aux communications astronautiques de l'opération Sayonara. Mais je n'y crois pas vraiment. Et c'est drôle de nom de appeler un livre Tartinez-moi et autres textes. C'est une sensibilité qui m'a vraiment frappé de comment on peut poser certains sujets qui peuvent sembler difficiles à traiter et elle s'aimait à nous donner sa surface, à dire tartinez-moi avec une sorte de liberté. Elle, c'est une critique des danses. Elle écrit une colonne et pas mal de ce qu'on peut voir dans les livres, c'est un reflet de son travail dans la colonne. Dans un autre aparté, on voit apparaître Trisha Brown et Deborah Hay. Il s'appelle comme ça le morceau, Hay Brown. On collaborait à l'occasion d'une pièce de la Judson Church, parce qu'elle faisait partie, Gigi faisait partie de la Judson Church. Et le public était assis des trois côtés de l'espace des représentations. Numéro 3, des Haïs, avait été joué pour la première fois à l'automne dernier sur une aire de parking à Ann Arbor. Je vous ai rappelé que c'est ce moment-là où la danse est invitée dans le rooftop et dans les toits. Et ils se mettaient à différents endroits des différents bâtiments et ils communiquaient, ils pouvaient traverser la danse à travers l'espace urbain. Et ça, c'est une idée qui est née à cette époque-là. Je vais vous laisser avec une petite pause musicale et on revient tout de suite. Bien, nous continuons notre exploration de ces textes de Tartini Mortre et textes de Jill Johnston qui a été publié récemment en 2024. C'est une nouvelle acquisition du fonds documentaire du centre de l'Institut chorégraphique international. Je vais y arriver. Et c'est bien évidemment fait à partir d'autres textes qui sont sortie de Lesbian Nation, me semble. C'est ça, Lesbian Nation de 1973. Et le livre est dédicacé pour sa maman, qui aurait dû être lesbienne, et pour ma fille, dans l'espoir qu'elle le soit. C'est vachement, vachement drôle comme elle adresse ça. Et c'est une artiste qui s'intéresse beaucoup à la poésie, aux effets pictodactylos de la poésie concrète et à briser un peu les frontières entre le dessin et l'écriture et même la peinture. Et c'est ça qui est intéressant de remarquer. Elle le dit. La question que posa Estein, c'est Barbara Estein supposément, sur la prose et la poésie que j'ai un jour appliquée à la danse. Pourrait à présent être formulé ainsi. Qu'est-ce que la poésie, si l'on sait que la poésie, qu'est-ce qu'un mouvement ? Je répète parce que c'est... Qu'est-ce que la poésie, si l'on sait que c'est que la poésie, qu'est-ce qu'un événement ? Quoi qu'il en soit, j'aime voir les poétesses ou quiconque se désigne comme telle de nos jours, faire des événements. Comme j'ai dit, ou sous-entendu dans les Voice, 10 octobre, les poétesses se rallient désormais aux autres artistes dont les identités s'ébrouillent. Les solutions au problème de l'identité et fous les camps. Ces tiny events ont été, comme beaucoup de mouvements Fluxus et Yam, de la fin des années 50 et au début des années 60, des vieux de Fluxus Yam faisaient des mêmes parties McClow et Emmett Williams. Même les chorégraphes habituellement les derniers à réagir ont été plus loin que les poétesses. De nombreuses danses de la Junction Dance Theatre étaient celles de Mark De Vestel, qui a annoncé un événement sans titre. Accroupi par terre, au milieu, il a retiré chaussures et chaussettes et présenté une cloque rouge à l'orteil qui disait dater du matin même et qui était due à un accident où un truc était tombé sur les dix orteils. Mais naturellement, il s'est passé beaucoup d'autres choses avant que Mark et ses potes ne partent. Je me demande si j'aurais pensé à mentionner son événement d'orteil ici, s'il nous l'avait simplement raconté ou s'il avait dévoilé son orteil sans l'annoncer, comme un événement d'une position spatiale spatialement évocatrice d'un événement bien plus important que la conversation qui animait notre table et nous procurait aussi beaucoup de joie. Quelle chose importe plus qu'une autre ? J'aime les mandariniers et les ciels de marmelade. Je pense que je me dois m'informer quelqu'un que Deborah Hay prend depuis peu des cours de danse du ventre. Tant de gens perçoivent la poésie ultime dans tous les signes de l'autre côté. J'ai oublié la première fois où je me suis vraiment connecté aux signes. Cela devrait être lors d'un voyage, retour vers la ville depuis la maison de George Segal à New Brunswick. Des nuits sur la route et après une conversation à tant tordre le ménage autour d'une table tournante sur la mort et autres non-sujets. Chaque signe, néant ou équivalent, s'est transformé en fantastique mise en scène. Quant à l'aspect signifiant des mots, je me suis rappelé que c'est un homme avait enregistré lors d'un épisode psychotique des 10 jours folie dans la politique de l'expérience de Ronald Laing. Il disait ne pas pouvoir lire les journaux parce que tout ce qu'il lisait générait trop de nombreuses associations. Par exemple, le Gautry titre à eux seuls lui inspirait bien plus de vertigineuses associations d'idées content normal. Il captait la fréquence du monstre métaphorique qui dort en chacun de nous. C'est extrêmement intéressant d'aborder le sujet de la folie et de comment c'est une souffrance que beaucoup de personnes subissent. Et ça m'a beaucoup interpellé qu'elle parle de ça, qu'elle voit ça surtout dans un espace typographique comme les journaux où ça doit être drôle de se sentir comme ça quand le cerveau est peut-être un peu trop chargé d'informations et c'est incroyable ces messieurs qui ne pouvaient pas lire les journaux justement à cause de cette difficulté. Une autre aparté intéressante, c'est vers la fin où elle commence à parler de la fiction de soi. C'est ça qui est intéressant de ce type d'écriture. C'est une création à partir d'une certaine artificialité de la personnalité. Et donc elle dit « J'ai lu quelque part que les femmes se transforment ou choisissent un chemin plutôt qu'un autre pour se réaliser, seulement après une prise de conscience. » Je ne suis pas sûr que cela soit encore vrai, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était vrai la plupart des temps, avant les débuts des années 1970. Et encore plus loin, j'ai lu quelque part que la quête des femmes de leur propre histoire a été le sujet d'une grande partie de la littérature durant ces 20 dernières années. Quand j'ai signé pour l'écriture de mon autobiographie, je suis certaine que j'avais déjà une histoire. Il est alors devenu évident que je ne savais pas comment la raconter et que ma quête allait devenir la recherche d'une méthode. J'ai peu à peu réalisé, à l'occasion de trois échecs entre 1969 et 1980, à remplir trois différents contrats d'édition, que cette histoire et les façons de la raconter ne sont qu'une seule et même chose. J'ai lu que Roland Barthes appelait biographie un roman qui n'ose pas dire son nom, et que les écritures que l'on se raconte sur le passé deviennent le passé. C'est effectivement ce que j'ai découvert pour moi-même. Un ami m'a écrit il y a peu à propos de son défunt père, me disant qu'à 30 ans, il commençait tout juste à les comprendre. Aujourd'hui, dit-il, à 65 ans, il lui découvre toujours de nouvelles facettes. Autrement dit, les éléments dont il se rappelle sont les mêmes. Mais désormais, son interprétation diffère. Son interprétation d'un même événement est aujourd'hui différente de ce qu'elle était en 1985, 1975, 1960 et 1955. Gigi, c'est un nom inventé qu'elle proportionne parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de quand on n'appartient pas à une certaine normalité, on est obligé de construire une identité, une nouvelle identité, soit à partir de comment on s'appelle. En plus, elle le dit au début de. Elle se voit comme une militante féministe et lesbienne et clown. Donc elle rajoute de plus en plus des qualificatifs à sa personne pour essayer de configurer un soi qui se remarque, qui s'y singularise de la norme. J'ai lu quelque part qu'un certain type, un écrivain spécialiste des questions masculines, considérer l'essence de la vie comme étant l'échange d'une mythologie inconsciente contre une autobiographie consciente. Il se voyait défaire l'enseignement des croyances quant à ce qu'un homme devrait être. Je ne crois pas qu'il pensait que ça annulerait son pouvoir, les seuls attributs sur la liste comptant comme il continuera à prendre pour acquis. Pour une femme, une autobiographie consciente implique non seulement de faire face à son passé en tant que femme travestie, la réalisation que chaque accoutrement de son sexe a été culturellement déterminé, l'équivalent de l'homme travesti, mais aussi à la manière dont elle a été et continue d'être victimisée dans ce rôle, même si elle ne s'y reconnaît plus, n'agit plus, ni s'habille en fonction. À notre époque, l'épanouissement de l'autobiographie plaît bien et par nature et sans nul doute dû à l'essor retentissant de la conscience des victimes aux États-Unis découlant des consensus politiques établis durant les moments des droits civiques et des femmes. L'autobiographie traditionnelle n'a que très rarement a été le médium des victimes. Au contraire, c'était les lieux des gagnants, de ceux qui l'étaient déjà à la naissance ou qui, contre toute attente, y étaient parvenus. Leur sujet est ce qui a été accompli. Le passé est scellé dans l'accomplissement. Dans la nouvelle autobiographie de la plèbe, écriture et invention de soi sont synonymes. À l'instar de Maya Angelou, l'autrice pourra inventer plus d'une autobiographie façonnant une profession là où aucune existe. La réalité est interprétée plutôt que simplement reproduite. Scribo ergo sum. Dans un autre aparté, elle parle de cette grande figure du féminisme, de Monique Wittig, où elle cite justement un morceau. Les textes d'une autrice minoritaire n'est efficace que s'il parvient à rendre le point de vue minoritaire universel, seulement si c'est un texte littéraire important. Même si l'homosexualité est un des thèmes du livre, À la recherche du temps perdu, est un monument de la littérature française. Fin des citations. Je corrigerai la première partie de cette déclaration pour un texte écrit par une autrice minoritaire ne parvient au succès que s'il devient un texte littéraire important. nous pourrons affirmer ensuite que le sujet stigmatisé de toute minorité a été négligé, excusé, en étant réduit à la catégorie de la grande littérature. Le commentaire de Wittig sur Proust confirme cela. L'œuvre de Proust est un monument de la littérature française, même si l'homosexualité en est le thème. Proust était devenu un monument des dizaines d'années plus tôt, bien avant que l'homosexualité de son texte ne soit décodée ou largement inconnue. J'ai lu Caroline Heilborn sur Dorothy Sayers. Elle a écrit que Sayers considérait la naissance de son fils illégitime, comme un péché et craignant d'être découverte. Elle raconte aussi que dans son péché, le véritable destin de Sayers en tant que femme était révélé. Qu'est-ce que cela signifie ? Ma mère avait 8 ans de moins que Sayers, née en 1993. Et elle aussi était effrayée, morte de peur, en réalité du fait d'avoir un enfant illégitime. Mener une vie indépendante, hors du lien du mariage, permettait à ma mère d'être plus libre que les autres femmes et de poursuivre ses propres intérêts. Voilà ce que je croyais être l'essence de mon histoire. Les faits s'étaient succédés de façon à exprimer des vérités psychologiques et politiques. Légalement parlant, j'étais morte-née, sans filiation masculine ni droit à l'héritage. J'étais le secret bien vivant de ma mère. J'appartenais à une grande minorité ignorée dont les histoires sont indicibles. Je ne parviendrai à exister, apporter une histoire au grand jour qu'en exposant ma mère et les schémas des pères en recréant mon propre passé. C'est ça qui est intéressant de rencontrer l'ouvrage d'une artiste comme Gigi, parce que ça nous permet de voir les choses autrement et de se rendre compte qu'il y a des existences qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Et c'est dans le pouvoir de l'imagination et le pouvoir de recréer l'identité où se trouve une stratégie intéressante, une solution à justement peut-être se réger ou ce regard de l'autre qui est parfois un peu lourd. Et donc ça nous permet de découvrir déjà son univers, de la connaître. On peut ou pas être d'accord, parce que c'est vrai qu'il y a des passages où on peut voir que c'est une pensée quand même très, très radicale. Mais ce qui est intéressant, c'est juste de voir comment tout ça, ça a été... adressé, et cette parole très libérée d'une lesbienne qui a beaucoup de choses à apporter et qui est très intéressant. Et donc aujourd'hui on a exploré cet ouvrage des Tartines et moi et autres textes de Gigi Johnston publié en 2024. Ça pour nous faire découvrir une autre façon de voir la danse quelque part dans ces meetings, dans ces discussions, dans tous ces lieux de rassemblement où une personne normale ne n'aurait pas vu la danse, mais nous on la voit à travers des yeux qui nous traversent dans la rue avec les luttes qui parfois nous unissent, parfois nous s'écartent, nous différencient, nous singularisent. Et donc je vous laisse en compagnie de cet ouvrage. N'oubliez pas que vous pouvez les consulter au fonds documentaire de l'Institut chorégraphique international dirigé par Rizzo. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée dans cet grand univers chorégraphique de divergence. Je vous souhaite à tous des beaux mouvements, des pas doux et des pas fortes, cadencés, pour vos activités, pour vos vies et pour vos amours. Je vous souhaite la plus belle semaine et à bientôt.
Alors tu veux faire danseur ?
And push. And turn and table.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!